Bienvenue sur Nouvel Oeil, le podcast pour ma génération, les millennials. Je suis Victoria Guillaumont, j'ai 23 ans, et je pars à la rencontre de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. À un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, et où l'on se pose beaucoup de questions sur notre avenir. Alors j'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé, osé et qui ont de jolis messages à nous transmettre t'aidera à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Si tu souhaites m'encourager dans cette aventure, n'hésite pas à laisser un petit avis sur iTunes ou sur Apple Podcasts et à en parler autour de toi. Tu peux aussi m'écrire sur le compte Instagram Nouvel Oeil et retrouver tous les épisodes sur le site www.nouveloeil-podcast.com. Je t'invite maintenant à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
Si on me demandait est-ce que tu veux repartir dans la vie avec la mucoviscidose ou sans, je prendrais sûrement la mucoviscidose. C'est la maladie qui m'a permis de faire ces projets. Après, bien sûr, il y a une part de... C'est ma personnalité de vouloir en faire une force. Mais sans la mucoviscidose, je ne serais pas parti sur un tour d'Europe. Je ne serais pas parti sur un tour de l'Atlantique. Je ne m'élancerais pas sur le marathon. Je n'aurais pas écrit un livre sur mon parcours de vie. Ça peut être paradoxal, mais merci la mucoviscidose parce que ça m'a emmené là.
Parce que rien n'est une fatalité. Et que tout, même les pires drames, peuvent être convertis en chance. Hans Selye le dit. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est la manière dont on le prend. Et pour les sceptiques, en voici un bel exemple. À l'occasion du week-end contre la mucoviscidose organisé par les Virades de l'Espoir, je mets en lumière l'incroyable force de vie d'Alexandre Alain. À l'âge de 2 ans, on lui annonce qu'il est atteint de la mucoviscidose et que ses années sont comptées. Loin de lui pourtant l'idée de s'éloigner de ses rêves. De ce drame, il en fait une chance, des chances, qui sont nourries par sa force de vie que personne ne pourra jamais lui enlever. Greffé à 21 ans, il vit aujourd'hui avec un souffle d'espoir et poursuit son chemin avec un entrain chaque année plus redoutable. Pour marquer son quart de siècle, il a écrit un livre qui retrace son histoire jusqu'à ses 26 ans et qui nous pousse plus que jamais à vivre sans plus attendre. Parce que tout est incertain, et que chaque chance attend d'être attrapée au vol. Salut Alex, enfin Alexandre. En fait, on se connaît donc du coup, bon, on se connaît depuis combien de temps ? Par les réseaux sociaux, on se connaît depuis près d'un an, je crois.
C'est ça.
Et on s'est rencontrés vraiment pour la soirée de lancement de mon livre il y a 2 semaines.
2 semaines.
Et toi, tu as lancé ton livre avec 1 semaine d'écart.
Exactement, donc on vit un peu les mêmes choses ouais. En décalé.
C'est fou. Ben écoute Alexandre, on va te présenter un petit peu. Et justement, donc on te présente souvent par le biais de ta maladie, la mucoviscidose, qui est une maladie génétique rare qui touche les voies respiratoires et le système digestif. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu te décrives sans employer le mot maladie, justement, parce que t'en parles trop. On te parle trop de ça et tu n'es pas que ça. Donc, qui es-tu, Alexandre ?
Mais justement, la maladie ne me définit pas, mais elle fait partie de moi. Et moi, je l'ai acceptée, elle fait partie intégrante de moi. Pendant longtemps, j'ai lutté. Enfin, mon premier projet, c'était contre la mucoviscidose, mais les projets d'après, c'était avec la mucoviscidose. Donc, bien sûr, elle fait partie de moi, elle est là. C'est même devenu un moteur dans ma vie, mais elle ne me définit pas. Et donc, Alexandre, c'est un jeune homme passionné de projets et d'aventures qui aime beaucoup la vie et qui a envie de transmettre ce message à toute personne, qu'elle soit atteinte d'une maladie ou non.
À quel moment tu t'es dit « ça sera pas contre, ça sera avec » ?
Ça a été un cheminement assez long. C'est une rencontre un peu spéciale avec Marine Barnerias, c'est Père Héro, qui a été diagnostiquée de la sclérose en plaques un peu après ses 20 ans, où son livre et ses différentes interviews m'ont conduit à moi à faire mon cheminement personnel, de me dire que voilà, la muco, elle est là. Je peux pas lutter, je peux pas l'enlever. Donc, ça sert à rien de lutter contre la mucoviscidose, mais justement, faut que je vive avec et vive le mieux possible et en adéquation avec. Enfin, c'est l'apprivoiser et c'est, je pense, comme ça qu'on peut vivre le mieux avec, c'est en l'acceptant.
Bah comme tous mes invités, on va quand même revenir sur ton enfance. On t'a diagnostiqué la mucoviscidose à l'âge de 2 ans, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Comment est-ce que tu l'as vécu, cette enfance? Est-ce que tu t'es vraiment sentie mise à côté? Est-ce qu'au contraire, t'en as rapidement fait une force?
Moi, je n'ai pas senti cette différence. Et même quand je demande à mes amis d'enfance, est-ce que vous avez senti la différence du fait que j'avais la mucoviscidose? Ils me disent, bah non, en fait, on faisait toutes les activités ensemble, on avait les mêmes loisirs, les mêmes activités. Et je pense qu'en fait, c'est la société qui me faisait sentir ma différence à certains moments de ma vie. C'est une psychologue qui me pose la question, est-ce que j'ai des amis à l'école? Moi, je me dis, bah forcément que j'ai des amis à l'école, parce que bah, je suis un petit garçon, mais comme tout le monde. Donc, ça m'a posé pour la première fois la question de me dire... Est-ce que du fait que j'ai la mucoviscidose, j'aurais pas droit ou je devrais avoir moins d'amis que les autres? Donc non, moi j'ai pas senti de différence, c'est aussi dû à l'éducation de mes parents, du fait que voilà, on est une famille de 3 enfants, mais j'ai eu la même éducation que ma sœur, que mon frère, et qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, j'avais droit d'aller au foot, d'avoir des activités physiques. Donc ils m'ont pas mis dans une bulle à me dire, bah voilà Alexandre, tu es différent, donc faut faire attention. Bien sûr que je pense qu'ils ont eu une attention particulière sur moi, mais en aucun cas ils m'ont fait sentir différent. Et moi je me sentais pas du tout différent.
Et à 20 ans, à l'âge où on réfléchit un petit peu à ce qu'on veut faire, comment tu te positionnais? Est-ce que ça a limité tes rêves ou est-ce qu'au contraire ça les a agrandis?
J'ai jamais eu cette épée de Damoclès sur la tête à me dire je suis atteint d'une maladie grave, incurable, je vais pas avoir de projet justement. J'ai toujours une vision à long terme. Bien sûr, je profite de chaque moment présent, mais j'ai toujours une vision. Je me voyais voyager, je me voyais fonder une famille, je me voyais monter ma propre entreprise. Et tous ces rêves-là, tous ces projets, objectifs, bah, je continue de les avoir. Et donc, très tôt, j'ai su ce que je voulais faire et je savais où je voulais aller. En fait, je ne me posais pas la question à 20 ans de me dire est-ce que il me reste 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà, pour moi, les statistiques restent des statistiques et on est là pour les faire changer. Donc non, j'ai toujours cru en l'avenir et j'y crois encore plus aujourd'hui.
Tu disais que tu savais ce que tu voulais faire. C'était quoi?
C'était agent sportif et c'est la raison pour laquelle je monte ma société d'agent sportif au 1er novembre. Donc voilà, tout de suite, j'ai su ce que je voulais faire dès le lycée. Mes amis, mes proches, je leur ai dit directement et quand je leur dis que je la monte aujourd'hui, bah, ils disent « Ah oui, c'est vrai, tu nous en as parlé il y a quelques années ». Et donc voilà, moi, quand j'ai un but, voilà, je m'y tiens. Parfois, bah, la route n'est pas tout à fait droite, mais ça fait partie de la vie. Et donc voilà, j'ai eu des rencontres, j'ai eu des aventures, j'ai eu des projets. Mais aujourd'hui, bah, mon nouveau projet et le projet que j'avais il y a 10 ans bah, se concrétise. Et ça, j'en suis super content.
Du coup, agent sportif, mais le sport, tu le pratiques aussi beaucoup. En 2014, tu as fait le tour d'Europe de 11 000 km. Tu as traversé 19 pays en Renault 6 pendant 23 jours. Pourquoi tu t'es lancé dans un tel projet? Qu'est-ce que tu recherchais?
Le premier projet, je pense que c'était plus un projet entre amis, une dimension de... Je viens d'un petit village dans la Sarthe, Chantenay-Villedieu, où j'avais un peu peur de l'inconnu. Mais de l'inconnu du fait que peut-être c'était aller voir qu'est-ce qu'il y avait de différent et qu'est-ce que ça pouvait m'apporter. Donc au départ, c'était un voyage avec 2 amis, mais on s'est dit qu'on voulait donner une symbolique particulière. Et donc là, notre message, c'était de promouvoir la lutte contre la mucoviscidose cette fois-ci. Et donc, on est allé chercher ça et on a tellement aimé ce projet de par ses rencontres, les voyages. Et j'en suis revenu tellement grandi en seulement 23 jours où l'inconnu me faisait plus peur. Et justement, j'avais envie de l'accueillir aussi chez moi parce que dans certains pays, comme en Roumanie, où il y a des habitants qui avaient quasiment rien, mais ils nous accueillaient les bras grands ouverts. Et moi, je me disais, mais si un jour j'ai un inconnu qui plante sa toile de tente dans mon jardin sans me demander, je veux dire, mais c'est, c'est quoi ce mec, enfin, il est bizarre, alors que moi, c'est ce que je faisais sur l'Europe, quoi. Et donc, ça a changé mon regard là-dessus, du fait que j'avais plus peur, ou en tout cas, beaucoup moins peur de l'inconnu.
Et après, t'as enchaîné par une autre aventure. En 2019, tu es le premier patient atteint de la mucoviscidose à traverser l'Atlantique en équipage. Et là, le 17 octobre, tu vas faire le marathon de Paris, lors de la journée mondiale du don d'organes. Du coup, chaque année, t'as un nouveau projet, en fait. C'est quoi ? C'est ça qui te rend vraiment vivant, qui t'anime ? C'est une boulimie de faire des projets plus grands que toi ? C'est quoi ?
Bah, je pense que les projets appellent les projets. Donc, il y a eu le premier projet en 2014 qui a amené le projet de Tour de l'Atlantique. Et à mon retour du Tour de l'Atlantique, bah voilà, je pense que les projets, moi, m'animent et me font vivre. Enfin, sans projet, je m'ennuie et je suis pas heureux, en fait. Les projets me rendent heureux, les rencontres. Donc, je me suis dit, voilà, je voulais donner une dimension plus sportive et avec une dimension du dépassement de soi dans ce nouveau projet, sans pour autant là, devoir partir un an. Et donc, le 17 octobre, là, c'est le marathon de Paris, mais c'est aussi la journée mondiale du don d'organes.
Oui.
Donc, quoi de mieux pour sensibiliser au don d'organes que de m'élancer sur cette course et de montrer que bah, le don d'organes, ça sauve réellement des vies. J'en suis la preuve et sans cette greffe, bah, j'aurais été incapable de courir ce marathon.
Cette pulsion de vie que tu as aujourd'hui, est-ce qu'elle serait aussi forte sans ce que tu as vécu ?
Non, et honnêtement, je pense que si on me demandait est-ce que tu veux repartir dans la vie avec la mucoviscidose ou sans, je prendrais sûrement la mucoviscidose.
C'est vrai ? C'est beau !
Parce que c'est la maladie qui m'a permis de faire ces projets. Après, bien sûr, il y a une part de... C'est ma personnalité de vouloir en faire une force. Mais sans la mucoviscidose, je ne serais pas parti sur un tour d'Europe, je ne serais pas parti sur un tour de l'Atlantique, je ne m'élancerais pas sur le marathon, je n'aurais pas écrit un livre sur mon parcours de vie. Donc, ça peut être paradoxal, mais merci la mucoviscidose parce que ça m'a emmené là. Peut-être que j'aurais une vie tout aussi passionnante sans, mais s'il fallait relancer les dés, je pense que la muco, ça fait partie de moi. Et donc, voilà, je l'ai apprivoisé et je pense qu'on s'aime bien, quoi.
Quel serait le projet le plus fou que tu pourrais imaginer faire dans 10 ans, par exemple ?
Ah là, je pense que les médecins, ils vont... Faut pas qu'ils écoutent cette réponse.
Ils n'écouteront pas, t'inquiète.
Parce que... Après, je sais pas si j'ai envie de le dire.
Ah ! Mais tu le sais ?
Mais je le sais. Je sais, ça serait quoi le... Pas le Graal, mais le projet qui serait un véritable accomplissement. Et c'est à peu près dans 10 ans que je peux le programmer. Je pense que ça m'anime. Et je pense que justement, c'est étape par étape. On me demande comment t'en es là aujourd'hui, comment tu as fait toutes ces rencontres. C'est bah, Tour d'Europe, c'était 23 jours. C'était un petit projet entre guillemets en amis. Le Tour de l'Atlantique, ça commence à devenir plus gros avec plus d'enjeux, que ce soit en termes de médiatisation, de partenaires. Et je pense que c'est petit à petit que j'ai appris et que ça donne aussi envie d'aller voir plus haut et savoir si on est capable d'atteindre plus haut. Peut-être qu'un jour, je me prendrai un plafond et que voilà, j'aurai atteint mon plafond. Mais
qu'il y a un plafond ?
Non, parce que même si je me prends le plafond, ça va m'apprendre quelque chose et peut-être me faire rebondir sur autre chose. Mais ce projet-là, je l'ai déjà en tête et j'en ai parlé à un cercle très restreint de proches. On devrait avoir 2-3 personnes au courant. Et ils me disent bah, « ça ne nous surprend pas forcément, mais c'est un projet qui demande beaucoup d'investissement et du temps. Et, mais je l'ai dans un coin de ma tête et souvent quand j'ai un projet dans un coin de ma tête, j'essaie en tout cas d'aller au bout.
T'as un lien particulier avec l'eau ? Tu habites à Biarritz et t'es jamais bien loin de projets en lien avec l'océan, j'ai l'impression. Tu travailles avec la Water Family. Qu'est-ce que l'océan t'apporte ?
À la base, je suis un terrien pur.
Ouais.
Je viens de la Sarthe. L'eau, c'était même quelque chose qui me faisait peur parce que avec la mucoviscidose, j'avais pas beaucoup de capacité respiratoire. Donc, une apnée, pour moi, ça durait pas plus de 4-5 secondes. Donc en fait, j'avais cette phobie de l'eau parce que j'étais en incapacité de... Si on jouait avec des amis à se couler dans l'eau, tout ça, bah moi, je prenais vite peur parce que je savais que j'étais incapable. Et lorsque 3 amis m'ont proposé ce tour de l'Atlantique, de les rejoindre et de faire passer le message d'espoir que je souhaitais, je me suis dit, bah, pourquoi pas, maintenant j'ai cette capacité respiratoire-là du fait de la greffe. Et donc ça m'a mis un peu le pied, on va dire, le pied marin. Et le monde de la mer et les gens qui y habitent et ce monde-là, les pêcheurs, les marins, c'est un monde qui est extraordinaire, où ils ont cette passion et aussi cette envie de transmettre pour continuer à découvrir un nouveau territoire. Et donc ce tour de l'Atlantique m'a fait aimer être sur l'eau et dans l'eau, alors qu'avant je détestais ça. Et ça apporte quelque chose un peu d'apaisant. Cet air marin, ça... On peut avoir passé une mauvaise journée, on se pose tranquillement sur la plage à regarder juste les vagues, ça... Voilà, on se dit, la nature est quand même belle et c'est quand même cool d'habiter près de la mer. Et donc forcément, je pense qu'il y aura d'autres projets qui auront un petit air iodé.
Et dans les villes, tu te sens comment? Là, à Paris, par exemple, on a Paris. Quand tu passes plusieurs jours à Paris, comment tu te sens?
En fait, j'aime les deux côtés parce que je pense qu'il y a des super bons côtés, que ça soit proche de la mer ou ici à Paris, dans une ville comme ça, parce qu'il y a aussi l'intensité de la vie, je trouve, quand on est à Paris, ça grouille de personnes, mais en même temps, on peut rencontrer tellement de personnes et ça ouvre aussi le champ des possibilités sur plein de choses. Et en fait, faut juste trouver le bon équilibre. J'aime aussi rentrer chez moi dans les terres, en campagne, où à la maison, bah, il n'y a pas un bruit. Et ça surprend parfois des personnes qui n'ont pas l'habitude de ça. En fin de compte, moi, ça me choque plus parce que c'est calme, il n'y a pas un bruit et c'est agréable aussi. Je suis un peu un oiseau qui aime bien se poser. J'ai pas forcément de besoin de me poser à un endroit et d'y être fixé. J'aime ce côté nature, j'aime ce côté urbain avec la ville, mais j'aime ce côté de la mer. Et pour l'instant, je suis pas prêt de me poser à un endroit prédéfini, ou alors si j'ai cet endroit où je vis, je sais que je serai en total mouvement et je pense sur toute ma vie, j'ai besoin de ce mouvement pour vivre.
Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre à l'école plutôt et que tu n'as pas appris dans tes cahiers?
Bah, je pense que c'est un joli clin d'œil aussi pour toi, c'est l'intuition. C'est de se dire, il n'y a pas forcément de route toute tracée. Enfin, comme tu dis, lorsqu'on est au lycée, on nous demande de choisir, on fait quoi après le bac? Moi, je savais ce que je voulais faire, donc en fait, ça ne me posait pas de problème. Mais il y avait plein de monde autour de moi qui... Bah, je sais pas... En fait, je trouve qu'on n'a pas assez de retours, d'expérience, de personnes qui sont passées par le même chemin ou qui viennent nous rencontrer au lycée pour nous expliquer, voilà, moi, j'ai fait ce choix-là. Tout le monde croit qu'il faut faire une classe préparatoire pour entrer dans des grandes écoles de commerce. Tu peux faire une licence normale et rentrer en master dans une école de commerce. Et tu peux même parfois viser des écoles de commerce encore plus haut que si tu étais rentré en classe préparatoire. Et montrer que j'étais le premier au lycée quand il y avait des intervenants, je trouvais parfois pas ça intéressant. Alors que je pense que maintenant, il faut arriver à trouver le bon angle de vision pour attirer l'attention des jeunes sur ça, montrer que voilà, c'est pas parce que t'es dernier de ta classe au lycée que tu seras le dernier dans 10 ans. Et c'est même souvent pas l'inverse, parce que tu peux être premier de ta classe quand t'es au lycée et premier plus tard. Mais moi, j'étais dans le bas du panier de ma classe et pourtant, bah voilà, j'ai fait une licence de droit, j'ai fait une école de commerce et j'ai monté mes projets. Et y en a d'autres qui étaient premiers et qui n'ont pas forcément réussi. Donc faut pas, même pour les parents, faut pas avoir peur d'avoir un enfant qui est pas dans le haut de la classe à ce moment-là, parce que ça veut rien dire. Et que les rencontres qu'on fait après le lycée, je pense que c'est là les plus déterminantes. C'est pas forcément au lycée, c'est les 4-5 premières années après notre lycée, où là on fait notre cercle. Et comme il y a un discours que j'aime bien, c'est si tu n'es pas intelligent mais que t'es avec 10 personnes intelligentes, tu seras la 11e, parce qu'au fin de compte, être avec des personnes intelligentes, ça te rend intelligent du fait de leur savoir.
Et toi, ton intuition, tu sais l'écouter?
J'apprends de mieux en mieux à l'écouter, parce qu'avant, je l'écoutais pas forcément, et j'écoutais pas forcément les signes de vie que j'avais autour de moi, les petites rencontres, les petits hasards, mais qui sont peut-être pas forcément du hasard. Et donc maintenant, j'apprends à plus l'écouter, cette intuition, et parfois, bah, quand je suis dans un dilemme pour prendre une décision, bah, je me dis, qu'est-ce qui t'anime réellement et c'est quoi l'intuition que tu as là-dessus? Et donc j'essaie, parfois je me trompe, mais en tout cas j'essaie de plus en plus de suivre cette intuition.
Et comment t'apprends à la suivre?
pense que c'est le fait de me dire la dernière fois, tu as pris cette décision.
Ouais.
Ça a donné ça. Au fond de toi, tu avais envie de suivre l'option B. Et donc, parfois, prends le risque de prendre l'option B qui, sur le papier, apparaît un peu farfelue et pas forcément la bonne réponse à ta question. Mais je pense que ça va donner d'autres champs de possibilités. Et donc, sur ça, parfois, c'est un « Ok, j'ai peur, mais prends peut-être le chemin le plus hasardeux et ça va te mener encore plus loin. » C'est ça, je pense, que j'essaie de me dire. C'est pas de rester dans le confort de la décision qui apparaît la plus claire et aussi que les autres voudraient que je prenne. C'est aussi prendre ses propres décisions et les assumer.
T'es pas du tout attaché au regard des autres ? Ça t'a jamais freiné dans tes choix ?
Le regard des autres, j'en ai souffert parfois lié à la mucoviscidose. Mais en même temps, c'est paradoxal parce que j'ai toujours assumé la mucoviscidose et j'en parle ouvertement et à tout le monde. Enfin, il n'y a pas de question tabou pour moi. Mais d'un côté, avec le livre, je me suis livré comme jamais, confié. Et même mes proches, ma famille, apprennent des choses sur moi et qu'ils étaient loin de se douter. Et là, j'ai des premiers retours sur le livre qui me disent « On était à milieu d'imaginer que tu vivais ça dans ta journée quand on te voyait le soir à profiter avec nous. » Et donc, peut-être que je me suis protégé à un moment donné, mais protégé aussi les autres parce que je voulais pas que leur regard change sur moi et je voulais pas voir de... C'est peut-être de l'ego mal placé, mais de la pitié dans le regard des gens vis-à-vis de ma situation à certains moments. Et donc, je voulais juste donner ce regard dans les gens à me dire « Bah Alex, c'est ok, il a cette maladie, mais il est toujours de bonne humeur, il a toujours le sourire, il veut toujours faire des projets. » Et donc là, je me suis confié, je me suis ouvert. Ça va changer, je pense, le regard des gens, mais peut-être en... Il n'y a pas de moins bien ou mieux, mais ça va changer le regard des gens et peut-être se dire « Bah... » Ça conforte encore plus l'idée du fait qu'on veut le partager et on veut accompagner Alex dans ses projets.
Et tu t'es senti accompagné ?
Oui. Alors là, par contre, sur ça, j'ai une chance, mais j'ai très peu de portes qui se ferment devant moi. Il y a plus des portes qui s'ouvrent. Mmh. Et ça, parfois, j'ai du mal à le comprendre parce que je me dis que voilà, je suis quelqu'un d'ordinaire qui fait parfois des trucs qui sortent de l'ordinaire, mais les portes s'ouvrent devant moi. Après, parfois, je les... en trouve pour qu'après on me l'ouvre en grand.
Oui, tu fais quand même un premier pas.
C'est ça, mais je trouve que le nombre de portes ouvertes qui viennent à moi sont assez fabuleux et c'est très chouette.
On publie nos livres à une semaine d'intervalle. Qu'est-ce que toi, l'écriture, elle t'a apporté ?
Bah, vu que moi, en plus, c'est sur mon parcours de vie, ça m'a pas mal chamboulé. Ça m'a mis pas mal en question de repasser par des moments qui n'étaient pas forcément agréables et où je m'étais dit, bah, j'ai fait le deuil de cette situation où voilà, ça s'est passé, il y a des choses qui sont sorties et je me suis dit, ok, il y a peut-être ces événements-là qui t'ont autant marqué que j'y pensais pas ou j'y faisais pas attention ou j'avais pas envie d'y réfléchir, que là, le fait d'écrire sur ma vie, bah, ça m'a obligé à réfléchir sur ce que j'avais vécu, sur ce que... ça m'a appris et sur ce que je voulais faire après. Et donc, ça a été l'aventure qui m'a appris le plus sur moi.
Encore plus que le Tour d'Europe,
encore plus.
La traversée de l'Atlantique.
Parce que justement, ça fait un bilan en fait de tout ça. Parce que je vivais justement cet instant présent dans les aventures, dans l'intensité, mais après, je n'avais pas ce recul-là de me dire qu'est-ce que ça m'a réellement appris. Et donc là, j'ai pu prendre le temps de mettre des mots sur ce que j'ai vécu et
de t'en rendre compte
et de m'en rendre compte réellement et aussi de faire un peu le me dire bah je suis parti de là et je suis là et c'est quand même pas mal.
Ouais, de faire un petit bilan en fait de tout ce que t'as réalisé.
C'est ça, j'ai écrit sur mon quart de siècle, donc
c'est, fou, ouais.
C'est pas mal, donc on se donne rendez-vous dans 25 ans pour le second quart quoi. Mais non, c'est, je remercie mon éditeur de m'avoir contacté et de me dire Alex, je pense que il y a une histoire à raconter sur toi, sur ce que tu as fait et sur ce que tu veux faire encore parce que ça a été une superbe aventure et je le vois dans le regard et dans les paroles des gens. Écrire un livre, ça peut paraître bête à dire, mais ça donne une légitimité. Les gens, ils se disent, il a écrit un livre. Alors que moi, bah, jamais de la vie, je m'étais dit, je vais écrire un livre. Et ça, je pense que voilà, ça m'apporte beaucoup et ça me consolide dans le fait que j'ai la légitimité de dire ce que je dis, alors qu'au départ, je m'étais dit, est-ce que t'es quelqu'un de normal, quoi.
Et est-ce que tu vas continuer à écrire pour toi, du coup, comme ça t'a aidé à mettre des mots et à te rendre compte de tout ce que tu vivais, notamment en ce moment où j'imagine que tu vis des choses très fortes. Est-ce que tu ressens le besoin d'écrire pour toi ?
Là, j'ai encore du mal à me dire pour moi. Peut-être pour laisser encore une trace, parce que je trouve ça hyper beau de laisser une trace, en fait. De me dire que mon neveu et ma nièce, qui ont 7 et 3 ans, dans 10-15 ans, vont pouvoir lire mon livre et sur ma vie, parce que du coup, ils n'ont pas forcément vu hyper malade, la greffe, s'ils étaient jeunes. Donc, je trouve ça hyper, hyper beau, en fait, de pouvoir mettre des mots et justement pas forcément de le garder pour soi. Oui, bien sûr, j'ai pas tout livré parce que il y a des choses que j'ai voulu garder et garder que pour moi, mais l'écriture, je trouve que c'est un super beau moyen d'expression. C'est celui en plus que je préfère quand j'ai des choses vraiment sincères à dire plutôt que par la voix. Et donc ouais, je pense continuer à écrire au départ pour moi, ou au moins garder une trace. Parce que quand on se rappelle, il y a 10 ans, on ne se rappelle plus trop l'intensité de l'émotion qu'on avait il y a 10 ans sur une rencontre, sur un événement. Alors que là, de pouvoir l'écrire le soir même ou deux jours après, on a encore cette intensité de l'émotion et de pouvoir placer le bon curseur sur l'émotion, alors que peut-être que dans 10 ans, je ne le placerai pas assez haut, pas assez trop bas. Donc...
Oui, ça te permettra de t'y replonger dans quelques années et de te dire « Ah oui, c'est vrai, je ressentais ça. »
Exactement.
Mais écoute, Alexandre, on arrive aux petites questions philosophiques de la fin. La vie, c'est quoi pour toi ?
La vie, pour moi, c'est des projets. En tout cas, c'est pas l'ennui. Mais après, j'ai pas cette volonté de dire qu'il faut profiter à fond de la vie parce qu'on sait pas de quoi demain est fait. Enfin, j'ai pas cette philosophie de vie de me dire « Voilà, faut profiter maintenant parce que je peux mourir demain. » En fait, tout le monde peut mourir demain et... Donc, bien sûr, j'ai des projets à court, à moyen et à long terme. Mais la vie, pour moi, c'est des projets, des rencontres et des moments de partage. Parce que tous ces projets-là, si je les faisais dans mon coin, ils n'auraient pas de saveur. Moi, c'est le partage qui me fait avancer et c'est pour ça que j'ai envie encore d'en faire. Et c'est les rencontres.
Et l'amour, c'est quoi pour toi ?
L'amour. Alors, pour moi, c'est le sentiment aussi qui me fait dépasser certaines limites que je peux me poser, où justement l'amour c'est transcendé dans le sens où le regard des autres n'a plus du tout d'importance quand on s'en amour, en fait. C'est des sentiments qui s'expliquent pas, en fait, ça se rechange juste. C'est le sentiment le plus fort et sur ça je suis assez pudique du fait de confier l'amour que je peux avoir, que ça soit de l'amour amical ou de l'amour amoureux. Quand je le confie, ça veut dire que la personne a une réelle importance pour moi. Non pas que les autres n'ont pas d'importance, mais oui, la démonstration, pour moi, elle est pas facile à faire, parce qu'il y a ce côté sûrement de la pudeur de me dire... Et donc, justement, à ce moment-là, l'écriture et les mots font beaucoup pour moi, et c'est le moyen d'expression. Je préfère dire un « je t'aime » par écrit, avec un développement à l'intérieur du « je t'aime », plutôt que de dire un je t'aime à l'oral. Mais les seules personnes à qui je suis en capacité de dire je t'aime tous les jours, c'est mon neveu et ma nièce, parce qu'ils ont été d'une force incroyable pour moi et c'est aussi pour eux que je vis aussi intensément aujourd'hui.
C'est trop beau. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui ?
De pas avoir peur. La situation est encore plus délicate en ce moment avec la situation sanitaire, mais je pense que chacun peut réussir. Franchement, faut pas se fixer de limites parce qu'il y a déjà tellement de personnes qui vont nous en fixer que si en plus on s'en fixe à soi-même, bah on se cantonne à rester dans le cadre. Et moi j'aime pas trop rester dans le cadre et souvent je dévie du cadre. Mais c'est lorsqu'on sort du cadre qu'on a les plus belles rencontres et les plus belles surprises. Faut pas s'inquiéter, la vie c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, il y a plein de nuances de couleurs. Et donc faut vraiment pas avoir peur. Là c'est compliqué, mais justement dans les situations compliquées on peut trouver du positif. Et moi c'est ce que j'essaie de montrer, c'est que bah voilà, à la base la mycoviscidose c'est pas du tout positif, mais maintenant pour moi c'est devenu un élément hyper positif.
Tu crois que chaque élément un petit peu compliqué de nos vies, on peut faire en sorte qu'il nous apporte du bon ?
Ah oui, totalement. C'est Mais même moi, parfois, j'ai du mal à le mettre en pratique. Hein. Je le défends avec conviction, mais le mettre en pratique, c'est le plus dur. Moi, quand j'étais en rejet, je me disais pas que ça allait m'apprendre sur la vie. Je me disais, c'est quand que je vais arrêter de faire des rejets de ma greffe ? Mais sauf que bah, voilà, ça nous apprend. Et peut-être que je me suis blessé il y a 2 semaines pour la préparation du marathon. Et je me suis dit, je me blesse à 5 semaines du marathon. Mais bah, je me suis dit, Alex, c'est peut-être ton corps qui te dit que voilà, l'intensité de la vie qui est autour de toi en ce moment, il faut peut-être que tu prennes du temps pour toi et du repos. Et donc, j'en prends. Et donc, peut-être que c'était un signe de me dire, il faut mieux que ça arrive 6 semaines avant plutôt que ça arrive à 2 jours du marathon.
Et donc, t'as ralenti tes entraînements ou pas?
J'ai ralenti parce que j'étais obligé de ralentir et de me reposer. De prendre du temps, mais du vrai repos. Pas du repos vite fait. Du vrai repos et du vrai temps pour moi.
Et c'est quoi du temps pour toi? Ça se caractérise comment?
Parfois, rien faire. Mais après, c'est le mental aussi. Enfin, au moment de dormir, c'est toutes les questions qui reviennent. Me dire, j'ai encore tout ça à faire et j'ai encore envie de faire tout ça. Et donc, avoir un sourire tout seul dans mon lit à me dire, putain, j'ai encore tout ça à faire. Et donc là, par contre, c'est arriver à trouver le sommeil. Mais parfois, oui, c'est juste ne rien faire. Pas réfléchir. Mettre le cerveau en off. Et c'est pas que du repos physique, en fait. C'est aussi du repos mental.
Mais mettre le cerveau en off, c'est quoi? C'est quand même être sur son téléphone? C'est regarder la télé? Ou c'est juste être assis dans la nature et regarder les oiseaux?
Je pense que c'est un peu de tout.
Ouais.
C'est parfois regarder la télé, mais sans réellement réfléchir à ce à c'est quoi, au fin de compte, l'énigme qu'il y a à la télé ou l'émission. C'est, voilà, c'est de se dire, je réfléchis pas, en fait. Et c'est pareil lorsque je suis dans la nature ou à regarder l'océan, c'est de me dire, te pose pas de questions. Voilà, tu es là, tu repos. Débranche le cerveau, ça va te faire du bien. Mais c'est pas facile.
Ah non, tellement pas. Bon, mais écoute, merci beaucoup Alex.
Bah merci à toi.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, qu'il t'a questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Oeil, retrouve-moi sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Oeil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu pourras t'y inscrire directement sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel Oeil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, toute dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment 2 minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel Oeil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous tous, à celles et ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.